Je le débranche.
Ouais, je veux bien. De toute façon, je vais pas m'en servir. Mais... Bonjour, je m'appelle Johan. Je travaille pour le GBU. Je suis partie des organisateurs de cette journée. Et je vais vous donner un témoignage de patient. Un témoignage de. En gros, un témoignage de personne en état de faiblesse, comme c'est le cas de tout patient, j'imagine. Bon voilà, ça va pas être une histoire dramatique. Je sais que plusieurs d'entre vous êtes confrontés à des histoires vraiment dramatiques. Là, c'est pas une histoire dramatique, c'est simplement une question d'incompatibilité gamétique. Terme éminemment savant, utilisé par les médecins pour dire qu'ils ne savent pas pourquoi vous n'arrivez pas à avoir de bébé. Incompatibilité gamétique. C'est bon, c'est trop. Donc ça a été notre cas avec ma femme Mélanie. Voilà, au bout d'un certain nombre d'années où ça ne marche pas, un certain nombre d'inséminations, vous arrivez à la PMA. Et donc voilà, vous avez donc des années d'échecs derrière vous quand vous arrivez à la PMA. Ça n'a rien donné naturellement. Et avec une aide un peu plus poussée. Donc je vous laisse imaginer la psychologie d'une femme qui se dit que potentiellement elle n'aura jamais d'enfant. Voilà, c'est un truc que moi j'avais du mal à imaginer avant. Maintenant j'imagine assez bien la chose. Vous vous pointez à l'hôpital pour aller dans le service. Et là, par exemple, pour Mélanie, ça a déjà été le choc. La géographie des lieux qui met dans l'ambiance. Au premier étage, là, je vous parle de l'hôpital d'Orléans, l'ancien hôpital d'Orléans qui a déménagé depuis. L'hôpital d'Orléans qui est la troisième maternité de France. Quand même. Vous arrivez. Premier étage, c'est la maternité. La PMA, elle est au sous-sol. Donc l'escalier qui monte, c'est pour les femmes qui fonctionnent bien. Et celui qui descend, c'est pour celles qui sont défectueuses. Voilà comment Mélanie a vécu les choses. Donc en fait, assez vite, en fait, ça l'a mise dans un état d'esprit pas très très positif. Et quand on arrive donc dans cette espèce de cave, où en fait, vous voyez, il y a de la mosaïque au mur, vous avez l'impression d'être dans une piscine. Et surtout d'être dans une zone désaffectée, hein, voilà, surtout. On n'a pas du tout l'impression d'être dans un service. Et en plus, il faut chercher la PMA. Donc en fait, heureux, et alors que la seule pancarte finalement qui existe en fait, quand on descend, en fait, c'est le lactarium. Parce qu'ils ont mis le service de PMA à côté du lactarium. Donc voilà, c'est nous, par contre, le service de PMA était vraiment flambant neuf. Il était très très joli, très très bien aussi. Hein, mais il n'empêche que quand on est dans une situation d'échec et qu'on arrive... comme ça, dans cette géographie-là, ça met dans l'ambiance. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le but du jeu pour une FIV, pour une fécondation in vitro, donc c'est de stimuler les ovaires d'une femme pour avoir un maximum de bons ovocytes. Ensuite, on opère pour en ponctionner un maximum, et normalement les meilleurs, et leur faire rencontrer des spermatozoïdes. Et ensuite, on transfère les embryons dans l'utérus. Donc voilà le but un peu de la FIV et le mode opératoire. Pour Mélanie et moi, en fait, les résultats n'ont jamais été merveilleux. À chaque fois, très peu de bons ovocytes et uniquement 2 embryons à transférer à chaque fois. Donc nous, on n'a pas tellement été embêtés avec les questions éthiques d'embryons congelés. Bien sûr, en fait, on entendait hein, les autres patients à côté « Ouais, on en a 20 !» Ouais, trop cool. Nous, on se disait, voilà, c'est... un transfert, une chance. Et si ça foire, ça foire. Ça veut dire après une autre opération. Mélanie déteste les piqûres. Elle a été servie. Maintenant, ça va. Elle déteste toujours, mais elle arrive à supporter, en tout cas, maintenant. Encore des situations d'échec à ce stade. Et dans ces cas-là, au bout de 2 échecs de FIV, on aimerait un peu d'encouragement. Enfin, déjà avant, on aimerait un peu d'encouragement. Mais là, en fait, on commence franchement à se dire, bah voilà, en fait, il reste encore 2 FIV, et après, en fait, c'est plus remboursé. Donc, en fait, l'optique, finalement, de jamais avoir d'enfant commence à se rapprocher très fortement, très, très fortement. Mais on avait en face de nous de très bons professionnels, mais qui étaient focalisés sur les résultats. Et on a eu à de nombreuses reprises l'impression quand même que nous étions des personnes qui n'avaient pas de résultats. Et d'avoir en face de nous des personnes qui voulaient avoir des résultats, donc qui nous aidaient finalement à être performants, mais en fait qui ne nous posaient pas la question, est-ce que ça va? Jamais. Et quand je dis en fait nous, je ne posais pas la question à Mélanie, parce qu'en fait moi j'existais pas en fait. J'ai accompagné Mélanie à peu près à toutes les étapes, hein, chez la gynéco pour les inséminations artificielles. Jusqu'à la PMA, je l'ai toujours accompagné. Et en fait, on me disait bonjour, mais c'est comme si j'étais pas là. En fait, on s'adressait toujours à Mélanie. Après, on me disait au revoir, c'était quand même sympa. Mais moi, en fait, j'existais pas. C'était à elle qu'on parlait. Bon, c'est bien, c'était elle qui était concernée. Mais n'empêche que on demandait pas beaucoup, en fait, si ça allait bien. Exemple d'une espèce de focalisation sur le résultat. Après une ponction, le chef de service demande à ma femme qui vient juste de se réveiller de son anesthésie générale, bah alors, vous l'avez bien pris votre traitement? Vous êtes sûr? Parce qu'il n'y a pas assez d'ovocytes là. Ok. Bon réveil. Bon réveil. Voilà. Et il l'a dit de manière pas très aimable, mais pas non plus en l'engueulant, quoi. Mais c'est parce qu'en fait, lui, voilà. Je ne sais pas combien il avait de ponctions dans la journée, mais lui, il fallait que ça arrive, quoi. Donc, on lui a dit, non, en fait, le traitement s'est très bien passé. Enfin, tout s'est passé normalement, quoi. Mais du coup, voilà. Mélanie, par exemple, elle s'est dit, c'est bizarre, en fait, en plus, je me fais engueuler, quoi. C'était ça, sa réaction. Donc, et je tiens encore à préciser, c'est un état d'esprit d'échec qui est installé depuis des années et des années. Donc, du coup, après, au bout d'un moment, le moindre petit truc en plus, on se dit. Encore un truc qui foire. Ouais. Et au bout d'un moment, il y en a marre que ça foire. La troisième FIV fut la bonne. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Et on était bien sûr très heureux. Même si finalement, Mélanie a eu un diabète gestationnel et n'était pas immunisée contre la toxo. Donc elle avait un régime un peu spécial. Mais le bébé était en siège. Et le chef de service, l'autre chef de service, parce que du coup, on est remonté d'un étage, ça c'est vachement bien. On était au rez-de-chaussée. Hein, voilà. Le chef de service a voulu pratiquer une VME, donc une version par manœuvre externe. Donc, retourner le bébé. Et donc, c'est au 7e mois qu'on fait ce genre de choses. Premier essai très douloureux et infructueux. Mais il a voulu retenter la chance. Une seconde fois. Alors que Mélanie lui avait dit, ça fait super mal. Et en fait, nous, on connaît un peu les mots magiques, et on a dit, ceci est un bébé précieux. C'est un bébé précieux, donc on veut prendre aucun risque. Et au bout d'un moment, on a dit, non, en fait, on veut une césarienne. On veut une césarienne, on veut pas. On veut. Voilà. S'il y a un quelconque risque. Et donc, on lui a dit, vous êtes sûr dans vouloir en faire une deuxième? Parce qu'en fait, le bébé n'a pas bougé d'un pouce, et Mélanie a eu un mal de chien. Elle a l'habitude d'avoir des bébés, la tête est là. Donc en fait, ils sont bien accrochés. Mais il a insisté. Il a insisté pour faire une deuxième VME. Et ça a toujours rien donné. Mais sauf que après une VME, on fait un monitoring pour vérifier que l'enfant va bien. Et lors du monitoring qui a suivi, les choses se sont accélérées, puisqu'il y a eu des battements de cœur très irréguliers. D'ailleurs, pour nous, en fait, quand vous entendez la machine qui gueule, ça vous fait un truc un peu bizarre. Mon bébé est en train de mourir! Et donc, vous allez chercher les infirmières qui, elles, ne paniquent absolument pas, et heureusement. Et qui disent, non, vous inquiétez pas, ça va aller. Mais du coup, on est monté de 2 étages. L'étage des mamans qui ont des problèmes. Donc, voilà. Pour un monitoring un peu plus long pour vraiment vérifier les battements cardiaques du bébé. Et donc là encore, une question d'état d'esprit. On était parti le matin pour un monitoring en croyant revenir. Et d'un seul coup, on se dit Est-ce que le bébé va mourir bientôt? Est-ce que il va y avoir, est-ce qu'on va faire quelque chose? Donc nous, bien sûr, on réclame depuis longtemps une césarienne, donc on se dit, on espère que le chef de service va nous dire bon, c'est bon, il va y avoir une césarienne. Donc on, voilà, on est dans un état d'esprit, on se dit, est-ce qu'il va encore y avoir le pire de tous les foirages qu'on ait vécu depuis le début, quoi. Voilà. Et le chef de service donc vient, entre dans la chambre, regarde Mélanie et dit bah, c'est bon, vous allez avoir votre césarienne. Et voilà, il est reparti. C'était à peu près ça, la manière dont il l'a dit, mais vraiment voilà, de cet air-là, quoi, avec cet air-là. D'accord. Donc on était morts d'inquiétude, bien sûr. Donc à ce coup, Mélanie allait devoir passer la nuit dans la chambre. Et en étant, voilà, là, pour le coup, le monitoring devenait un peu notre idole. on était suspendu à tous les sons qui pouvaient être alarmants. Et là est arrivée Alice. Alice, aide-soignante, qui vient et puis elle, bah, finalement, elle nous demande en fait comment ça va. Et donc voilà, comment ça va, et en fait, bon, elle nous demande un peu quel est le problème, qu'on raconte. Et en fait, ça, on n'avait pas forcément eu l'habitude de ça. Et elle nous demande ce qu'on fait dans la vie. Et ça, c'est bien, parce que quand on demande à Mélanie ce qu'elle fait dans la vie, bon, bah, c'est cool. Mais moi, quand on me demande ce que je fais dans la vie, en fait, moi, je dis je suis pasteur. Donc j'observe la réaction. Et là, elle dit ah, alors on est de la même famille, alors. Bon, alors du coup, on va prier. Et donc elle dit bah, j'ai prié pour vous. Et donc voilà, on a tous prié. Et en fait, ça a été notre rayon de soleil. Ça a été l'ange envoyé par Dieu pour nous remonter le moral, alors qu'on avait vraiment, vraiment le trouillomètre à zéro. Et donc Alice a été absolument géniale. 10 minutes d'intervention, juste pour nous demander comment on allait et prier avec nous. Voilà. Et là, on se dit, ah, voilà, dans cette espèce de spirale de l'échec. On se dit bah bon peut-être que ça va aller mieux. Et du coup bah ça s'est très bien passé. Hein. Il y a une césarienne. Moïra est née. Elle est très très belle depuis. Donc elle est née le jour de la première rencontre du réseau santé en 2012. Donc tu te rappelles parce que ça a été annoncé en direct.
Ouais c'est ça. Ouais.
C'est ça. Parce que j'avais envoyé un texto à plein de personnes en disant bah, prier. C'est le moment de la césarienne. Donc, voilà. Là encore, on a été confronté à une absence d'écoute, encore une fois, après la naissance. Puisque par rapport au diabète gestationnel de Mélanie, alors que notre endocrino avait bien dit qu'après l'accouchement, il fallait tout redevenir normal, donc il fallait arrêter l'insuline, il fallait arrêter les régimes et tout ça. L'anesthésiste, lui, a décidé qu'il fallait garder la pompe à insuline, qu'il fallait que Mélanie suive un régime diabétique à l'hôpital. Ce qui fait que, donc vous imaginez un peu la chose, quand vous êtes plus diabétique et qu'on continue la pompe à insuline, et ben forcément, ça fait le yo-yo au niveau de votre glycémie. Alors bien sûr, il lui disait de faire les dextro, et en fait, quand elle était trop basse, du coup, elle reprenait du sucre. Mais elle avait toujours la pompe à insuline. Donc comme ça. Donc voilà, j'ai dû relever Mélanie qui est tombée dans les WC en faisant une parce que forcément on n'a plus de jus hein. Et donc voilà, et en fait quand on a revu l'endocrino, en fait elle nous a dit mais j'arrête pas de leur expliquer, mais ils veulent rien comprendre. Et c'était vraiment elle était dépitée. Et nous en fait on se disait tiens, on est en 2012 et l'anesthésiste c'est pas que un diabète gestationnel, ça s'arrête juste après l'accouchement. Il ne le sait pas. Et on se dit bah bon bah voilà, c'est pas grave, hein, mais on s'est dit ah ouais. Et il n'a pas voulu nous écouter parce qu'on lui a expliqué. On lui a dit mais l'endocrino nous a dit non, d'accord, ok. Mais il nous a pas écouté. Donc tout ça pour dire que On a rencontré, dans tout ce processus, la plupart du temps des gens qui étaient des très bons professionnels. Mais on a finalement rencontré assez peu d'humains. Humains dans le sens des personnes qui interagissent avec vous, qui interagissent personnellement, je veux dire. Et moi, en fait, j'ai un regard particulier parce que dans le métier où j'ai vécu, c'est un métier pastoral où le but, c'est de faire attention à l'autre. Je regardais bien, j'observais bien, parce que de toute façon, vu que je n'existais pas, j'avais que ça à faire, d'observer. J'observais en fait les conversations que les soignants avaient avec mes amis. Et en fait, quand des fois, ils me demandaient comment ça allait, et qu'elle leur disait, bah voilà, j'ai pas trop de morale par rapport à ça, ou il y a un truc qui se passe mal. Des fois, en fait, il y avait une interaction. Mais en fait, le soignant, en fait, parlait de lui. Il parlait de souffrance. Mais en fait, il ramenait tout à lui. Et il ne parlait pas du tout de Mélanie à chaque fois. Et à chaque fois, c'était, ah oui, bah moi, j'ai vécu ça. Et en fait, ben oui, mais en fait, j'avais juste envie d'interrompre en disant, non, mais en fait, elle a juste envie que tu lui demandes comment ça va, que tu lui parles d'elle, en fait. C'est ça, en fait, le but du jeu. Mais en fait, on a vu, quand on doit dépoter je ne sais pas combien de chambres dans une journée, voir je ne sais pas combien de patients et tout ça. En fait, c'était la course tout le temps. On voit les gens passer. Ils courent. Et en fait, on a jamais eu un regard un peu accusateur ou en se disant, oh là là, les vilains soignants. C'est vraiment qu'en fait, on se disait, bah, on est seul. En fait, on est seul. Il y a une impression de solitude. Et c'est là où, en fait, Alice a vraiment joué un grand rôle. Et c'est là où, à mon avis, les soignants chrétiens peuvent jouer un grand rôle. C'est finalement, en fait, en posant des questions, en s'intéressant, et pourquoi pas en disant, bon, allez, on va prier. Alors ça se fait sûrement avec des chrétiens, et après, Nour, en fait, on dira peut-être plus si vous avez le droit de le faire. Voilà, je vous remercie de votre attention.